Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Les lignes rouges de l'Iran toutefois respectées, il sera prêt pour un accord final, a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères. Nous n'avons pas besoin de serment sur la justice pour les profanateurs du droit international, c'est en ces termes que Pékin s'en prend à l'OTAN. Les exécutions en Arabie Saoudite pourraient constituer des crimes de guerre, selon la haute commissaire aux droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Le président sénégalais soutient une solution négociée entre le Mali et la CEDEAO. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, et son homologue britannique, Liz Truss, se sont entretenus par téléphone sur des questions liées aux relations bilatérales et aux importantes des évolutions internationales. Lors de cet appel téléphonique, la ministre britannique des Affaires étrangères s'est dite satisfaite des nouveaux développements positifs dans les relations Téhéran-Londres et a appelé à l'expansion des relations entre les deux pays. Saluant le remboursement d'une ancienne dette britannique attendue depuis plus de 4 décennies en tant que de droit de la grande nation iranienne, le ministre iranien des Affaires étrangères a exprimé son espoir que le terrain pour le développement des relations bilatérales sera fourni par des mesures de confiance. Les deux parties ont également échangé des vues sur le dernier statut des pourparlers de Vienne et a exprimé l'espoir d'un accord final. Amir Abdollahian, ministre iranien des Affaires étrangères, a souligné: nous sommes plus proches que jamais du point final de l'accord, mais arriver à un accord bon et durable nécessite le comportement réaliste des États-Unis et l'abandon par ces derniers des exigences incorrectes. Si toutes nos lignes rouges sont respectées, nous sommes prêts pour un accord final, a martelé le chef de la diplomatie iranienne. La mission chinoise auprès de l'Union européenne a indiqué que Pékin n'oubliera jamais ceux qui ont attaqué l'ambassade de Chine en Yougoslavie et qui n'a pas besoin de sermons de la part des usurpateurs du droit international. La mission a exprimé cette position dans une déclaration publiée sur son site web en réponse aux critiques de l'OTAN à l'égard de la Chine concernant sa position sur la crise ukrainienne. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. Le ministère russe de la Défense a révélé un document daté du 6 mars 2015 qui confirme la participation du Pentagone au financement des projets biologiques en Ukraine. Selon l'agence de presse Sputnik, le commandant des troupes de protection radiologique, chimique et biologique des forces armées russes a fait savoir le financement américain total des activités de biologiques militaires effectuées dans les laboratoires du ministère de la Défense de l'Ukraine atteint 32 millions de dollars. Il a souligné que l'accord sur les activités biologiques conjointes a été conclu entre l'administration militaire américaine et le ministère ukrainien de la Santé. Cependant, le véritable bénéficiaire des fonds était les laboratoires du ministère ukrainien de la Défense. La haute commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a condamné les exécutions en Arabie Saoudite de 81 personnes accusées d'être liées au terrorisme, et estimant que les peines prononcées à certains d'entre eux pourraient être considérées comme des crimes de guerre. Dans un communiqué, Mme Bachelet a déclaré que parmi les personnes décapitées figuraient 41 personnes appartenant à la minorité chiite qui avaient participé à des manifestations anti-gouvernementales en 2011-2012 pour exiger une plus grande participation politique en plus de cet autre yéménite et d'un ressortissant syrien. Notre observation indique que certaines des personnes exécutées ont été condamnées à mort à l'issue de procès qui n'ont pas satisfait aux exigences d'un procès équitable et aux garanties d'une procédure régulière. Elles ont été accusées de crimes qui ne se semblaient pas répondre aux crimes les plus graves, comme requis par le droit international, a-t-il souligné. Madame Bachelet a également exprimé sa préoccupation que certaines des exécutions semblent être liées au conflit armé en cours au Yémen. Le président sénégalais soutient une solution négociée entre le Mali et la CEDEAO. Le président sénégalais Macky Sall a, dans un tweet, déclaré qu'il souhaitait la reprise du dialogue entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et le Mali afin d'aboutir à une solution négociée de la crise opposant les deux parties. Dans son tweet, le président Sall a affirmé avoir eu à ce sujet un entretien avec le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, à la veille de la visite à Bamako du médiateur de la CEDEAO. Les chefs d'État et de gouvernement des pays de la CEDEAO ont adopté le 9 janvier dernier de lourdes sanctions économiques contre le Mali après que la junte au pouvoir s'est accordé un délai de 5 ans avant d'organiser des élections. Selon la presse locale, l'économie sénégalaise a perdu plus de 24 milliards de francs CFA depuis l'instauration des sanctions de la CEDEAO. En tant que voisin du Sénégal, le Mali y fait transiter beaucoup de ses importations et exportations et est le plus grand client du port autonome de Dakar. Une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, conduite par la ministre ghanéenne des Affaires étrangères et de l'intégration régionale, est arrivée, c'était jeudi, à Ouagadougou, pour échanger avec les autorités de la transition, selon en fait des sources diplomatiques. La présence à Ouagadougou de cette délégation s'inscrit dans le cadre d'une visite de travail avec les autorités burkinabées de transition, a souligné le ministre burkinabé des Affaires étrangères dans un communiqué. Le Burkina Faso a entamé une période de transition de 3 ans consécutive à la chute de Roch Marc Christian Kaboré par un putsch le 24 janvier. Un gouvernement de 25 ministres a été mis en place et conduit par un premier ministre civil, Albert Oued Raogo, alors que l'Assemblée législative de la transition de 71 membres est en cours de composition. La Tunisie se dit prête pour organiser le prochain sommet de la francophonie. La Tunisie est prête pour abriter ou organiser le prochain sommet de la francophonie prévu à l'île de Djerba dans le sud-est du pays vers la fin de cette année, déterminée à faire de ce rendez-vous une véritable réussite, a déclaré le ministère tunisien des Affaires étrangères, citant son ministre Ousmane Djarandi. Monsieur Djarandi a présidé les travaux de la 46e extraordinaire du colloque ministériel francophone qui s'est tenu à Paris. Le chef de la diplomatie tunisienne a par ailleurs réitéré la disponibilité de son pays à participer activement aux différentes initiatives et programmes approuvés à cet égard et à œuvrer pour enrichir et contribuer leur réussite, peut-on dire dans un communiqué du ministère tunisien des Affaires étrangères. C'est la fin de notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. La Chine s'en prend vivement à l'OTAN, ce dont nous parlerons dans notre commentaire politique. La mission chinoise auprès de l'Union européenne a indiqué que Pékin n'oubliera jamais ceux qui ont attaqué l'ambassade de Chine en Yougoslavie et qu'elle n'a pas besoin de serment de la part des usurpateurs du droit international. La mission a exprimé ses positions dans une déclaration publiée sur son site web en réponse aux critiques de l'OTAN à l'égard de la Chine concernant sa position sur la crise ukrainienne. Le peuple chinois est en mesure de partager pleinement la douleur et la souffrance des autres pays, car nous n'oublierons jamais le bombardement de notre ambassade en Yougoslavie. Nous n'avons pas besoin de serment sur la justice pour les profanateurs du droit international. Le communiqué a déploré, en tant que de relique de la guerre froide et la plus grande alliance militaire au monde, l'OTAN continue d'étendre sa géographie et la portée de ses opérations. L'OTAN doit réfléchir sérieusement au rôle qu'elle a joué pour apporter la paix et la stabilité dans le monde. Et c'était mardi, le secrétaire général de l'OTAN aura appelé la Chine à condamner la guerre, à ne pas de soutenir la Russie. Le ministère chinois des Affaires étrangères avait fermement rejeté de la déclaration du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, selon laquelle la réticence de Pékin à condamner la Russie contredit sa position sur la charte des Nations Unies. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que son pays avait toujours cru en la nécessité de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Il y a deux jours, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a souligné que la Chine n'est pas partie à la crise et souhaite toujours ne pas être affectée par les sanctions. La Chine est toujours opposée à l'utilisation de sanctions pour résoudre des problèmes, sans parler des sanctions unilatérales qui n'ont aucun fondement dans le droit international, qui nuiront à la vie des gens dans tous les pays, a souligné le ministre chinois des Affaires étrangères. Pour rappel, le 7 mai 1999, à la suite des bombardements de l'OTAN, l'ambassade de Chine à Belgrade a été endommagée, causant la mort de 3 personnes et faisant plus de 20 blessés.